ce concept de manipulation. On voit, n'est-ce pas, dans ce mot manipulation, indépendamment du qualificatif qu'on va lui apposer, manipulation génétique ou manipulation psychologique, l'idée de mettre la main, manipulation, mettre la main sur un ordre pour le changer, l'altérer. On peut même se dire qu'une manipulation, ça peut être une altération violente. Ça peut être pas simplement mettre la main sur un ordre, ça peut être aussi violer un ordre des choses, violer une loi naturelle. Sous le mot de manipulation, il y a bien cette idée d'un ordre manipulé, trafiqué, vicié. Le manipulateur subit ou opère une mutation. Ce qui autorise, si vous voulez, cette manipulation, c'est en aval, bien sûr, la volonté de transformer un ordre, mais en amont, c'est une certaine mutation, une certaine façon différente de voir le réel, d'approcher la réalité des choses. Je ne cherche pas à juger ou à qualifier moralement cette manipulation. Je dis que le manipulateur peut subir lui-même cette mutation involontairement, ou il peut l'opérer volontairement. On verra cela. Toujours est-il qu'une chose est importante dans cette mutation qui donc, en amont, justifie, ou en tout cas explique, cette manipulation. Il y a un rapport au réel, un rapport à la réalité qui est modifié, qui est changé. C'est-à-dire, avant de manipuler l'ordre des choses, le manipulateur lui-même est dans un rapport altéré au réel, un rapport modifié. C'est parce que il a justement opéré ou subi cette mutation lui-même, le manipulateur. Au fond, on est un petit peu dans l'idée de l'arroseur arrosé ou du manipulateur manipulé ou muté ou changé ou modifié. C'est à ce titre-là qu'il peut lui-même manipuler, renverser certains ordres, en particulier un certain ordre de priorité. Et je reprends les trois exemples que donnais s'agissant, cette fois-ci maintenant, des manipulations génétiques par l'abbé Sélénie dans son étude, justement, assez exhaustive, vous disais-je, sur tout ce qui concerne les manipulations génétiques aujourd'hui. Il disait, on a une manipulation qui se manifeste donc par un renversement. On voit un médecin qui est fait se mettre au service de la vie, de la santé, renverser cette perspective et, contrairement à son serment d'Hippocrate, ne pas hésiter à porter la mort, soit dans le cas d'une forme d'eugénisme ou d'euthanasie, une forme d'avortement ou de pratique abortive. Bon, on voit cela et c'est quelque chose d'un petit peu surprenant. Mais plus encore, on avait vu des renversements de priorités qui sont opérés. C'était le deuxième point. La science devient un absolu. C'était la déclaration, n'est-ce pas, du premier auteur, du premier bébé ou éprouvette. La science devient un absolu au-dessus de tout, y compris la vie. La vie est donc reléguée, ravalée, rabaissée, mise en dessous de cet absolu. L'un d'entre vous parlait hier de sacralisation de la science. Je crois que l'expression est assez juste, n'est-ce pas ? Une science sacrale. Et la vie, elle, est considérée comme quelque chose de tout à fait relatif. Le besoin de savoir, nous disait cet auteur, est supérieur à la vie. Au fond, la valeur scientifique est supérieure à cette valeur que peut représenter la vie. Alors ça aussi, c'est quand même un renversement de perspective. C'est une priorité qui est accordée à la science au-dessus de tout. Une troisième chose que relevait l'abbé Sélénier, qui est aussi juste, qui montre bien, donc, si vous voulez, ces mutations intellectuelles qui vont autoriser, qui vont justifier, qui vont permettre, qui vont cautionner, si vous voulez, ces mutations, ces manipulations, elles, génétiques. Donc, troisième mutation intellectuelle, c'est la science donc, qui s'arroge le droit d'être au-dessus du droit, n'est-ce pas, et de la morale. C'est ce que on lisait donc dans ce rapport pour la Commission européenne signé Palacios. Donc, le préalable, c'est toujours effectivement cette modification du rapport à la réalité. C'est la clé, c'est ce qui commande tout. Sinon, on ne comprend rien. Donc, celui qui vit dans ce rapport-là considère que l'ordre des choses ne se découvre pas. Il n'est pas donné. L'ordre des choses se décide. Il se décrète. Et il y a quelque chose d'un peu prométhéen, il faut l'avouer, dans cette attitude mentale, dans cette façon de fonctionner intellectuellement. Et je citais la référence obligée dans ce genre de propos, Protagoras, un des pères de la sophistique, l'homme n'est pas mesuré, il n'est pas déterminé par un certain ordre des choses, il est mesure, il est la mesure de toute chose. C'est dans cette perspective-là que je crois qu'il faut placer notre propos de ce soir, après ce petit rappel. Donc, en un mot, l'intelligence, et je reviens alors sur une autre acquisition de notre réflexion hier, l'intelligence, dans la perspective idéaliste, ne conçoit pas en étant fécondée par la réalité. Elle va plutôt concevoir en s'auto-fécondant, en donnant son principe fécond à une réalité qui serait de soi inféconde ou stérile. Alors que la perspective réaliste, comme je vous disais, reprenant tout simplement une analyse s'attache à l'étymologie du mot, n'est-ce pas, l'analyse que nous propose de Corte dans son Intelligence en péril de mort, le mot concept signifie nécessairement rencontre, commerce, n'est-ce pas, de l'intelligence avec le réel. Et ce que nous voyons dans les choses de la vie doit, pour un réaliste, se rencontrer aussi dans les choses de l'esprit. L'esprit, la vie, ça doit fonctionner de la même façon. Dans la vie, il y a fécondation, il faut qu'il y ait une étreinte. Dans l'intelligence, c'est la même chose. Il faut que, pour qu'il y ait fécondation de l'intelligence par le réel, qu'il y ait ce commerce, cette étreinte, n'est-ce pas, de l'intelligence et du réel, de la réalité. Et nous nous sommes promis hier de voir ce soir trois choses. Premièrement, de voir comment se réalise de façon très concrète cette auto-fécondation. Ce que j'appelais de façon un petit peu humoristique, mais vous comprendrez que ça n'est pas de l'humour, c'est quelque chose d'assez propre comme terme, cette forme d'autofocation qu'on pourrait appeler dans l'ordre de l'activité intellectuelle quelque chose qui est comparable à ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Quelque chose. Alors, je vous avais dit, on pourrait étudier cela dans Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe, la jeunesse à Combourg, et spécifiquement cette page très 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 célèbre où Chateaubriand invente complètement cette sylphide, ce fantôme d'amour. On va voir que c'est un très très bon exemple effectivement d'auto-fécondation, une grossesse nerveuse, indépendamment de la qualité littéraire de la page en question. Il y aurait d'ailleurs une analyse stylistique à faire très 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 intéressante, et en particulier bien repérer la façon dont Chateaubriand utilise les épithètes et sature la sensibilité et l'imagination de son lecteur. Mais enfin, ça n'est pas le propos de ce soir, nous sommes plutôt dans une perspective philosophique plus que littéraire. Mais toujours est-il que cette étude, donc, que nous allons faire, puisque nous sommes engagés à la faire, il va bien falloir la faire, cette étude servira de bonne transition, elle nous permettra de bien passer du point de vue biologique génétique au point de vue psychologique. Ça va nous servir effectivement de transition pour passer de la manipulation génétique à la manipulation psychologique. Nous nous disions aussi hier, et l'un d'entre vous m'avait soulevé là cette objection, il avait raison, il disait, mais vous dites que la manipulation touche à un ordre, c'est vrai, mais l'idée d'ordre elle-même renvoie, fait référence à une finalité, à un but. Évidemment, on est ordonné à quelque chose. Et comme je n'avais rien dit de la finalité, cet auditeur, particulièrement sagace, exigeant intellectuellement, avait dit, mais quelle est la fin? Quel est le but? Eh bien, il faudra effectivement en parler. J'avais dit, je n'ai pas contourné, je n'ai pas escamoté, mais j'ai réservé pour ce soir. Donc, on en parlera ce soir. Et puis, troisièmement, comme je vous le disais, il ne faut pas lorsque l'on fait de la philosophie, oublier la portée pratique des réflexions auxquelles on se livre. Or, ce travail que nous effectuons sur la manipulation, tant sur le plan génétique que sur le plan psychologique, doit nous permettre de mieux nous prémunir contre les manipulations, parce que nous sommes tous potentiellement manipulés, tous potentiellement nous pouvons être manipulés, et nous sommes manipulables, n'est-ce pas? Alors il faut voir quelles sont les parades, quels sont les anticorps, si on veut, que l'on peut fabriquer pour se prémunir contre ce risque, ce danger-là. Donc, on verra ces trois choses. Mais tout d'abord, ce que je vous l'ai promis, commençons, et là j'emprunte à De Cort cette analyse qui doit nous servir de transition. Donc dans Chateaubriand, ceux d'entre vous qui ont lu les Mémoires d'Outre-Tombe, donc c'est au tout début, la jeunesse dans ce château un peu sinistre, avec un père extrêmement sombre, des soirées d'hiver qui sont par définition longues, un château médiéval qui n'a rien de confortable. Et dans cet univers-là, terriblement prosaïque, la créativité poétique de Chateaubriand se donne libre cours, et il arrive donc à fabriquer cet être chimérique, ce qui est connu dans l'histoire de la littérature française sous le nom justement de Sylphide de Chateaubriand. De Cort ne cite pas tout. Il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés dans Chateaubriand. Il prend les extraits les plus significatifs. Le prétexte qui va permettre la base, si vous voulez, réelle, extrêmement ténue, qui va permettre à Chateaubriand de décoller, elle est là, insignifiante pour ainsi dire. La famille de Chateaubriand est réunie au salon, un voisin du château est là avec sa jeune épouse, il y a un petit bruit à l'extérieur, tout le monde se porte à la fenêtre, on regarde à l'extérieur un petit peu ce qui se passe, et puis lorsqu'on a vu, eh bien, on s'en retourne. C'est au moment de ce retour que Chateaubriand, de façon fortuite, se trouve là, au contact de la femme de ce voisin. Et de ce contact extrêmement fugace, absolument chaste, où rien ne se passe, il fait naître dans son imagination, chauffé à blanc, vous allez le voir, une sylphide, un être parfaitement fantasmagorique. Alors voici. Chateaubriand nous relate, dit De Cort, un épisode de sa jeunesse dont les éléments correspondent trait pour trait, ainsi que leur ensemble, à ceux que nous avons réunis donc dans l'ouvrage qui s'intitule L'intelligence en péril de mort. Un voisin de la terre de Combourg était venu passer quelques jours au château avec sa femme, et celle-ci, en regardant à l'extérieur, pressa le jeune François Chateaubriand, entre elle et la fenêtre. Bien. Je ne sais plus, dit Chateaubriand, ce qui se passa autour de moi. Dès ce moment, j'entrevis que d'aimer et d'être aimé, d'une manière qui m'était inconnue, devait être la félicité suprême. Si j'avais fait ce que font les autres hommes, j'aurais bientôt appris les peines et les plaisirs de la passion dont je portais le germe. Mais tout prenait en moi un caractère extraordinaire. L'ardeur de mon imagination, ma timidité, la solitude, firent qu'au lieu de me jeter au dehors, je me repliais sur moi-même. Faute d'objets réels, j'invoquais par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Ici, il faut remarquer donc cette démarche très intéressante. La découverte d'un début, n'est-ce pas, de passion aurait pu effectivement l'orienter vers les sentiments humains normaux que l'on a pour les personnes de l'autre sexe, mais pas du tout. Lui-même le dit, le reconnaît, faute d'objets réels, en vertu de sa timidité, de la solitude dans laquelle il est plongé, il se replie sur lui-même. Et c'est dans cet univers confiné, c'est-à-dire dans cet univers circonscrit par son moi, qu'il va créer cet être fantomatique. J'invoquais vers la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je me composais donc une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Cette charmeresse me suivait partout invisible. Je m'entretenais avec elle comme avec un être réel. Ici, deux choses donc à remarquer. Il va prendre des éléments. Alors là, l'extrait est trop court pour que l'on sache, mais dans le texte original, on sait ce qui se passe. Il va prendre des traits à toutes les personnes qu'il voit. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, il est en train de se faire une image comme ça, presque de synthèse. Il se fait lui-même à partir d'éléments disparates, une créature à sa guise, selon son caprice. Alors il dit, ce sont des jeunes filles qu'il a pu rencontrer, mais ça peut être aussi des peintures du salon paternel, ça peut être même, dit-il, des tableaux pendus au mur de l'église du village. Donc il va décomposer ces êtres réels pour, à partir de ces éléments disparates, recomposer un être, lui, parfaitement irréel, mais auquel il va donner la vie, puisque il va lui parler, il va s'entretenir avec cet être comme s'il s'agissait d'un être réel. Souvent, elle devenait, donc cette créature chimérique, elle devenait une fée qui me soumettait la nature. Sans cesse, je retouchais ma toile. Il n'est jamais content de ce qu'il a fait et il modifie. Évidemment, il est très commode d'aimer les gens qui peuvent être ainsi modifiés selon le caprice, n'est-ce pas, de la passion amoureuse. Parce que ce n'est pas très contraignant, ce n'est pas très... les yeux bleus ne vous vont plus, hop, vous les transformez en yeux verts, la personne était rousse, elle devient blonde, c'est parfait, n'est-ce pas. Vous avez besoin d'un œil vert, un œil bleu, vous mettez cela. À la fin, ça doit faire peut-être quelque chose un petit peu surréaliste, enfin, c'est possible, tout est possible avec l'imagination. Souvent, elle devenait une fée qui me soumettait la nature. Sans cesse, je retouchais ma toile. Pygmalion fut moins amoureux de sa statue. Mon embarras était de plaire à la mienne. Héros de roman ou d'histoire, que d'aventures fictives, j'entassais sur des fictions. Il le voit. Et il avoue, n'est-ce pas, ce délire, parce que c'est quand même une attitude délirante, dure 2 ans. Il a des moments, n'est-ce pas, de retour au réel. Et en général, ces moments sont toujours douloureux. Il le dit lui-même, à ce moment-là, je m'étends sur mon lit et je me mets à pleurer parce que je m'aperçois qu'il n'y a plus aucun rapport entre cette chimère et puis la réalité qui m'entoure. Mais comme la réalité le déçoit, comme la réalité ne lui plaît plus, il va se réfugier toujours, et ça va durer pendant 2 ans, dans cet univers onirique, complètement fictif. J'entassais donc fiction sur fiction. Au sortir de mes rêves, je n'osais plus lever les yeux sur l'image brillante que j'avais attachée à mes pas. Ce délire dura 2 années entières, pendant lesquelles les facultés de mon être arrivèrent au plus haut point d'exaltation. Je montais avec ma magicienne sur les nuages, plongeant dans l'espace, descendant du trône de Dieu aux portes de l'abîme, les mondes étaient livrés à la puissance de mes amours. Je passe un petit peu, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, exalté comme il l'est, à ce point d'incandescence où est portée son imagination, il a le sentiment de n'être plus un homme. Il a l'impression de transcender la condition humaine. Il le dit ici. Je ne savais plus quelle était ma véritable existence. Accablé et comme submergé de ces doubles délices, délices des sens, jouissance de l'âme, il ne sait plus où il en est, et il en est très content. Il dit, j'étais homme et je n'étais pas homme, je devenais le nuage, le vent, le bruit, j'étais un pur esprit, un être aérien, chantant la souveraine félicité, je me dépouillais de ma nature, pour me fondre avec la fille de mes désirs, pour me transformer en elle, pour toucher plus intimement la beauté, et voici le terme important, pour être à la fois la passion reçue et donnée, l'amour et l'objet de l'amour. Ici alors on a affaire à une véritable mutation. Une mutation qui n'est plus d'ordre génétique ou psychologique, mais qui est une mutation qui se voudrait d'ordre ontologique. N'est-ce pas ? C'est l'être même d'un être humain qui voudrait être changé, transformé. Je me dépouillais de ma nature et je voulais être à la fois celui qui aime et celui qui est aimé. C'est-à-dire abolir, annuler la distance entre l'objet et le sujet. Tout à l'heure, je vous disais, dans une perspective réaliste, il y a effectivement un objet qui vient féconder un sujet connaissant. Mais il y a une distinction réelle entre les deux. Ça ne peut pas être autrement. Dans une perspective idéaliste, l'idéal, si j'ose dire, sera de faire en sorte que le sujet n'ait plus besoin d'un objet contraignant, contrariant, qui le mesure, qui le détermine. Il voudrait être à la fois le sujet et l'objet. Ici, comme il s'agit de passion, ça sera à la fois le sujet qui aime et l'objet qui est aimé. Et dans son cas, c'est exactement ce qui se produit. Parce que fait-il ? Il ne fait que s'aimer lui-même à travers cette production qui lui doit tout. Cet être chimérique, ça n'est que lui-même, ça n'est qu'une projection dans l'imaginaire de lui-même. Donc, je me dépouillais de ma nature pour être à la fois la passion reçue et donnée, l'amour et l'objet de l'amour. Mais comme Chateaubriand n'est pas un être délirant, il s'aperçoit que ces choses-là ne sont pas justes. Et il retourne à la réalité. Il s'aperçoit, il dit lui-même, tout à coup frappé de ma folie, je me précipitais sur ma couche, je me roulais dans ma douleur, et accessoirement dans mes draps, j'arrosais, c'est moi qui ajoute par mauvais esprit, j'arrosais mon lit de larmes cuisantes pour un néant. De plus en plus garrotté à mon fantôme, ne pouvant jouir de ce qui n'existait pas. Il voit bien. Il s'aperçoit que ce songe, qui est un mensonge bien sûr, est un enfer. Et Decors, de façon très synthétique, ramasse un petit peu les leçons que l'on doit tirer de cette page. Il dit à juste titre, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit la solitude d'un moi, coupé de ses attaches à la réalité. Une intelligence submergée par l'imagination. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit également le repli d'une conscience sur elle-même, dans la création d'une pseudo-réalité. Une réalité de suppléance, un ersatz, un produit de synthèse. La projection de cette représentation mentale dans l'univers, l'ivresse aussi de la volonté de puissance, transformant la fiction en une réalité qu'il dirige et domine à son gré. La conviction même de remplacer Dieu et d'être le créateur des mondes. La certitude de ne plus être ce qu'on est, de devenir toute chose, d'être un surhomme et de changer en même temps que l'univers, le sujet qui fait l'objet et se retrouve identifié à son œuvre. Voilà la phrase importante, c'est ça. On a ça, un sujet qui fait l'objet, il ne le reçoit pas, l'objet ne lui est pas donné, il ne s'impose pas à lui, il le fait, il le crée, et il est identifié à cet objet, puisque cet objet c'est le fruit de ses entrailles. Vous voyez, là on touche véritablement le cœur du problème. C'est là une mutation de type ontologique, c'est l'être même qui voudrait être changé, modifié. Alors, cette transition étant opérée, entrons maintenant dans le deuxième volet, mais je réutiliserai ce que nous avons vu là dans Chateaubriand pour éclairer la deuxième partie donc de ces deux causeries. L'intitulé ici est simple, manipulation psychologique, à partir, si vous voulez, de ce qui est le plus facile à saisir, c'est les manipulations psychologiques d'ordre chimique, c'est-à-dire la transformation de la psychologie par certaines substances chimiques, l'utilisation de certains médicaments pour transformer des états psychiques. Ces choses-là existent, je n'ai pas traités de façon trop développée, vous savez comme moi. On peut bien sûr penser aux hallucinogènes, on peut penser aux toxiques, bien sûr. C'est intéressant parce que Chateaubriand, si vous voulez, c'est un petit peu cet esprit-là. Si vous voulez, c'est le voyage, le trip, mais sans les moyens chimiques. C'est uniquement par l'imagination. Et il y a un ouvrage dont je recommande la lecture, si vous vous intéressez à ces questions-là, si vous voulez voir la portée philosophique, si vous voulez voir la substructure, les soubassements métaphysiques, ontologiques de certaines attitudes, c'est un fait de société, c'est un phénomène courant, en particulier le problème de la toxicomanie, je vous recommande l'ouvrage de Jean Brun, philosophe qui n'enseigne plus maintenant, mais qui était professeur à Dijon. Jean Brun, dans son ouvrage, s'intitule « Les vagabonds de l'Occident ». Il montre qu'il n'y a pas 36 moyens de permettre un voyage qui autoriserait à s'affranchir de la nature humaine, à transcender la condition humaine. Pour lui, il y a trois types de véhicules. Il y a effectivement le monde onirique, l'imagination, le rêve. Il y a la drogue et il y a la folie. Et pour lui, l'Occident oscille entre ces trois tentations, avec l'idée justement donc de se mettre à vagabonder, de ne plus être orienté, de ne plus avoir un ordre. Vous voyez la différence, pourquoi est-ce que Jean Brun intitule son ouvrage Vagabond de l'Occident, les vagabonds de l'Occident? C'est parce que, à la différence de l'esprit médiéval, aujourd'hui nous sommes entrés dans une période de vagabondage, alors que l'esprit médiéval est un esprit de pèlerinage, c'est pas la même chose. Un pèlerin sait où il va, un pèlerin a une direction, un pèlerin va à Saint-Jacques de Compostelle, un pèlerin va à Jérusalem. Un vagabond, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui politiquement en France un SDF, n'est-ce pas, sans domicile fixe, il ne sait pas. Il est, alors on dira de façon un petit peu vulgaire, il est paumé, il faudra dire de façon peut-être plus technique, il est désorienté, il est déboussolé, il a perdu le nord, c'est pas justement quelle est la fin, quel est l'objectif. Et ici, c'est très intéressant de relire Chateaubriand dans cette perspective-là. Au fond, c'est une forme de voyage qui permet de changer, d'opérer cette mutation ontologique par non pas la drogue ici, mais par une forme de rêve éveillé, très, très particulier. Bien. Alors, commençons par les choses que nous savons le mieux, qui sont les plus simples. Effectivement, tout le monde se rend compte qu'il y a actuellement une consommation croissante d'antidépresseurs. On utilise de plus en plus les psychotropes à des fins détournées. Parce que je ne suis absolument pas opposé à l'utilisation de médicaments pour des maladies chez des vrais malades. Mais lorsque l'on utilise, comme nous disions hier, des psychotropes à des fins qu'on qualifie aujourd'hui de cosmétiques, simplement pour obtenir, si vous voulez, un certain confort, là, ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, pour rappeler un petit peu, j'en ai dit hier que je ne ferai pas d'analyse sociologique ou statistique, mais je crois que s'agissant de ces questions de consommation accrue, il est bon de se rappeler certains chiffres. Je partirai de deux ouvrages, mais je les citerai après, si vous voulez. Voilà quelques chiffres. Ce sont des chiffres français, mais je crois qu'on peut très facilement appliquer ça au Canada ou aux États-Unis. En France, qui est le premier consommateur européen de produits anxiolytiques, psychotropes, hypnotiques, on arrive à ce chiffre extraordinaire en 1993 de 60 millions d'ordonnances. Donc 60 millions d'ordonnances délivrées par des médecins pour ce type de prescription-là, c'est-à-dire 60 millions. C'est la population française. Et les ventes totales, elles sont chiffrées 3 milliards et demi de francs pour toutes les catégories de produits confondus. Mais ensuite, si on cherche à savoir de façon un petit peu plus précise, les antidépresseurs, c'est 1 milliard et demi, les tranquillisants, 1 milliard 2, et les somnifères, les calmants, c'est 0,7 milliard. Vous savez, j'allais dire peut-être vous mieux que moi encore, le succès de cet antidépresseur d'un nouveau type, qu'on appelle le Prozac, à qui on a consacré beaucoup d'ouvrages. Je me servirai alors de l'ouvrage de Kramer. L'ouvrage intitulé « Listening to Prozac », à l'écoute du Prozac. Ici, c'est en français, ça a été traduit par justement « Prozac, le bonheur sur ordonnance », point d'interrogation. Quelques chiffres, donc c'est produit par un laboratoire, le laboratoire Eli Lilly. Ça leur a permis de faire un chiffre d'affaires mondial de plus d'un milliard de dollars. Uniquement cette petite gélule verte et beige. Elle est prise par plus de 6 millions d'Américains actuellement et par 2 millions de Français. Mais ce qui est étonnant, c'est pas l'utilisation d'un médicament. Soyons réalistes, quelqu'un est malade, il prend un médicament, c'est dans la nature, c'est dans l'ordre des choses. Mais là, c'est que cette prescription est faite en général sans réel examen psychiatrique, sans véritable diagnostic. Là, je cite un auteur. Des milliers de personnes avalent un Prozac comme elles prendraient un cachet d'aspirine, sans être malades. Elles le font pour surmonter leur petit tracas existentiel, un coup de cafard, le trac, l'angoisse, un chagrin d'amour. Peut-être que Chateaubriand aurait fait l'économie de quelques pages s'il avait connu le Prozac. Des difficultés professionnelles, voire simplement l'ennui. Il en est peut-être parmi vous qui, dans la perspective de cette conférence, ce soir, se sont dit, tiens, vite, un Prozac. Ce rire est un aveu. D'autant plus que, poursuit l'auteur, beaucoup d'autres en prennent tous les jours au petit déjeuner avec leurs vitamines à titre préventif pour tenir le coup, se sentir bien dans leur peau ou dans leur basket, ça dépend à quel niveau c'est. Pour rester de bonne humeur. Il en est même qui refusent d'interrompre leur traitement après leur guérison parce qu'ils veulent se sentir, grâce au Prozac, mieux que bien. Ils en ont assez d'être bien, ils veulent être plus que bien, c'est-à-dire mieux. Alors là aussi, on se dit, mais il y a à la fois manipulation, mutation. Bon, c'est entendu que ce traitement peut manipuler, c'est-à-dire modifier, altérer le comportement, mais il y a aussi derrière, une mutation. Quelqu'un qui pense ne pas pouvoir se contenter d'être bien, mais qui aspire à être mieux que bien, il y a une mutation, il s'est passé quelque chose. N'est-ce pas? Hier, M. Dupuis me posait la question des manipulations à but véritablement thérapeutique. Ah, évidemment, elles sont bonnes. L'exemple le plus courant, dont je vous disais, sur un plan physique, un chiropracteur manipule son patient pour remettre un membre déboîté à sa place. Et cette manipulation est tout à fait normale. Lorsque on prend un médicament, en principe, c'est pour, justement, obtenir ce type de manipulation bénéfique, thérapeutique. On a l'intention de retrouver, de recouvrer un état de santé que l'on avait perdu. Ça, c'est bien. Mais là, ça n'est plus ça. On ne demande plus la santé. On veut au-delà de la santé, n'est-ce pas? On voit autre chose. Et on voit effectivement des gens qui disent ne plus pouvoir se passer du Prozac, non pas parce que ce seraient des dépressifs qui auraient besoin d'un traitement antidépresseur, mais parce qu'une fois guéris, elles ont l'intention de se maintenir dans cet état de dépendance, au fond, pharmaceutique. Elles ont besoin de ça parce qu'elles se sentent mieux, mieux que bien. Alors ça fait réagir. Alors, de fait, plusieurs auteurs se sont posés des questions. Il y a le livre donc de Peter Kramer. Et puis en France, vous avez le livre d'un psychiatre d'origine arménienne, Zarifian, qui a fait paraître un livre aux éditions Odile Jacob qui s'intitule « Des paradis plein la tête ». Et le titre est extrêmement révélateur. Alors, Zarifian s'inquiète de l'utilisation de ces médicaments. Lui-même, donc, est psychiatre. Il prescrit ce genre de médicaments, mais il s'aperçoit qu'il y a une demande qui ne correspond plus à la prescription qu'il a établie. Alors, il s'en inquiète. Voici ce qu'il dit. Il a le sentiment, si vous voulez, que ou bien les gens veulent aller au-delà du bien-être, c'est un mieux-être permanent, alors c'est peut-être ça d'ailleurs le meilleur des mondes, il y a aussi chez certains la volonté, c'est ce qui intéresse le plus le Zarifian, c'est la volonté au fond de gommer, d'effacer tous les symptômes. Faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout ces voyants que nous avons tous, n'est-ce pas? Vous avez un mal de tête, c'est un symptôme, c'est intéressant. Vous avez de la fièvre, c'est un symptôme, c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce qu'il faut chercher la cause. Vous avez de la fièvre, il y a une infection, il faut aller voir à la cause. Un bon médecin ne se contente pas simplement de faire baisser la fièvre. Il va aller à la cause de cette fièvre. Il ne va pas faire de la médecine symptomatique. Par les antidépresseurs, dit Zarifian, et je crois qu'il a raison, on arrive effectivement à modifier, à manipuler, et peut-être même à gommer les symptômes. Mais on ne fait pas disparaître nécessairement la cause. Et là, je vous renvoie tous à une expérience qui est assez simple et que vous devez assez facilement comprendre, c'est que on ne conçoit pas qu'un état de souffrance morale, comme peut-être une dépression, puisse recevoir une réponse adéquate de type purement chimique. Concrètement, je ne vois pas quelqu'un qui souffre moralement allant voir un médecin en lui disant « voilà ma souffrance », et l'autre n'ayant pour simple réponse que quelques molécules dans une gélule verte et beige. Il y a une adéquation, on se dit « mais c'est pas possible qu'à une souffrance morale puisse simplement correspondre des changements moléculaires ». Enfin, vous voyez la chose. Et cela est très, très vite perçu par les malades. Beaucoup de malades se disent « c'est vrai, ça ne peut pas être ainsi ». Alors qu'est-ce qui se passe? Et Zarifian lui-même le dit. Est-ce qu'on ne se contente pas simplement de manipuler les symptômes, de les modifier, de les déplacer, de les changer, en laissant le problème de fond intact? Et c'est ça, alors, qui est dangereux, parce que, si vous voulez, cette manipulation fonctionne comme un leurre. Le problème est peut-être déplacé, il est peut-être masqué, il n'est pas résolu. Et ça, c'est grave. Voici ce que dit Zarifian, je le cite. La volonté actuelle d'effacer les troubles psychologiques grâce au seul psychotrope ignore la signification profonde du symptôme, l'extrait artificiellement de son contexte biologique, psychologique, social. Et cette volonté de n'utiliser justement que des médicaments psychotropes, souvent, n'est-ce pas, ne sert qu'à masquer provisoirement le mal, ce qui fait que le patient est programmé à une rechute presque inévitable. C'est logiquement que l'on peut se demander si, et c'est Zarifian qui parle, et qui fait référence de façon anticipée à l'introduction de M. Dupuis, demain le meilleur des mondes ne sera-t-il pas celui justement de l'anesthésie psychique et affective pour tous. Donc, vous voyez, et ça, au fond, tous ces psychotropes arriverait à fonctionner soit comme des promesses du bonheur, hein, pilule du bonheur, le bonheur, n'est-ce pas, en gélule, le bonheur sur ordonnance, mais ultimement, derrière cette chimère, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait peut-être l'anesthésie totale, l'anesthésie psychique et affective de tout. Tous les symptômes, n'est-ce pas, sont gommés, effacés. Et au fond, un grand vide, au fond, une grande souffrance intérieure. Les problèmes que soulève la consommation actuelle des psychotropes, donc, est vu là par plusieurs auteurs, en France en particulier. Kramer appartient au Nouveau Monde. Il diagnostique, je crois, assez bien. Mais ce qui me semble assez insatisfaisant, tant chez Zarifian que chez Kramer, mais plus encore chez Zarifian, c'est que malheureusement, leurs outils philosophiques sont très peu élaborés, et s'ils ont bien diagnostiqué le mal, ils vont prescrire une mauvaise ordonnance. Je crois qu'ils ne sont pas très 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 bien équipés sur ce problème-là. Parce que au fond, ils sont assez marqués par l'esprit matérialiste qu'ils semblent dénoncer. Ils sont quand même assez tributaires de ce matérialisme ambiant contre lequel ils pensent s'inscrire pourtant en faux. Ils n'arrivent pas vraiment à se dégager.
il ferait mieux, à mon avis, de tenir un petit peu plus compte de la dimension, justement, métaphysique des choses, la dimension philosophique, la dimension ontologique. On a tort lorsque l'on oppose le psychologique et le métaphysique, lorsque l'on sépare ainsi l'ontologique et le psychologique. On l'a vu à travers Chateaubriand, on essaiera de le revoir à la fin de cet exposé. Vous voyez, par exemple, pour vous montrer des solutions qui me semblent personnellement parfaitement inadéquates. Dans donc son livre « Des paradis pleins la tête », Zarifian dit une chose juste, mais il propose une solution qui me semble pas satisfaisante. « Demander, dit-il, des psychotropes pour masquer l'existentiel. » L'expression est intéressante, là. « Masquer l'existentiel. » C'est passer à côté de la vie, négliger ses propres ressources, se condamner à perdre toute liberté. Là, c'est intéressant, c'est juste. Mais alors, qu'est-ce que propose Zarifian pour essayer de remettre les gens un petit peu, là, dans un certain ordre de... Qu'est-ce qu'il propose? Les valeurs dérisoires d'un humanisme à bout de souffle. On démaquillera les âmes avec des valeurs, dit-il, éternelles que l'homme porte en lui, qui ont permis, à travers tous les chaos, l'essor des civilisations. Elles ont nom, ces valeurs, la solidarité, l'entraide, le courage, la tolérance. Elles s'appellent générosité, fraternité, chaleur humaine. Tout ça me semble dérisoire. Ça me semble, c'est-à-dire qu'il propose, n'est-ce pas, de remplacer le Prozac par une pseudo-morale humanitariste, kouchnerienne, si vous voulez, comme on dit à Paris. Un piètre produit de substitution, une espèce de méthadone idéologique. Ça ne va pas plus loin. Il faut faire, à mon sens, très attention. Et tous les courants un petit peu du Nouvel Âge s'apparentent, justement. Ce sont des revendeurs de méthadone idéologique. Ce n'est pas une authentique spiritualité, ce n'est pas une métaphysique profonde non plus. Alors, bien sûr, on peut se dire, et j'en arrive alors au freudisme, on peut se dire, ben, face à cette manipulation... Et à cette réponse qui semble inadéquate, donc on voit les symptômes manipulés, le comportement psychologique manipulé, on promet mieux que bien, ou on propose de masquer, de gommer tous les symptômes. Dans cette manipulation, on se dit la solution de Zarifian, elle n'est pas satisfaisante, les médicaments, ça va pas, la chaleur humaine, pas suffisant non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut chercher? On peut être tenté d'aller un peu plus profond, justement, dans la psychologie des profondeurs, dans le freudisme, justement, dans la psychanalyse. Et on peut se dire, mais là, il y aura peut-être une prise en compte des problèmes profonds, intérieurs. C'est une démarche qui peut s'effectuer. On se dit, là, ça pourrait être ainsi. Ben, si on va dans cette direction-là, qu'est-ce qu'on trouve? La psychanalyse, je ne vais pas vous faire un résumé ce soir, je n'en aurai pas le temps, mais enfin, de fait, pour le Freud, le mal-être, si vous voulez, ou tout simplement le comportement névrotique, s'explique par un conflit intrapsychique. Je bois pour faire avaler ce que je vais vous dire. Ce conflit intrapsychique, donc, se développe entre trois... Il y a l'instance psychique inconsciente, n'est-ce pas, qui est le ça, qu'on peut aussi appeler soi ou il. Il y a l'instance consciente, le moi, et il y a le surmoi, où se trouvent, n'est-ce pas, tous les interdits sociaux, l'éducation parentale. Le ça, où se trouvent les pulsions, fondamentalement la libido et la pulsion de mort. Ce ça est régi par le principe de plaisir, la satisfaction des pulsions. Le moi, lui, est en contact avec le réel, avec la réalité, et il est régi, il est gouverné par le principe de réalité. Le conflit se situera entre ces trois instances-là. Voilà, ça, ce sont les instances psychiques, n'est-ce pas? Les instances psychiques, selon Freud. Ces instances psychiques donc, sont en conflit entre elles. Pourquoi? Ben parce que déjà, vous le voyez bien, le principe de plaisir est contrarié par le principe de réalité. C'est-à-dire que la satisfaction des pulsions ne peut pas s'opérer très facilement quand le réel est là qui dicte ses exigences à lui. Donc il peut y avoir divergence, et plus que divergence, opposition entre le ça et le moi. Et pour Freud, dans ce conflit-là, il y a source de névrose. En effet, dit-il, le développement libidinal souvent n'est pas suivi par un développement du moi, du principe de réalité. Le moi freine la libido, l'empêche, n'est-ce pas, de se réaliser, alors ça va faire un conflit. Essentiellement, lorsque le moi refoule dans l'inconscient, refoule dans le ça, les pulsions. À ce moment-là, elles vont essayer de se manifester de façon détournée, soit par les actes manqués, les fameux lapsus révélateurs, ça va se mettre par les rêves également, mais ce refoulement est source de névrose. Également, il y a un conflit, par exemple, le surmoi peut contrarier la libido, les interdits parentaux, les interdits sociaux vont dire, n'est-ce pas, que l'on ne peut pas. Et Freud envisage cette névrose soit sur un plan individuel, personnel, soit aussi sur un plan collectif. Il dit par exemple dans son ouvrage qui s'intitule « Malaise dans la civilisation », il dit « Parce que le surmoi collectif entretient une inflation d'altruisme insoutenable, insupportable, sous la forme de cette phrase que vous connaissez « Aime ton prochain comme toi-même ». Pour lui, c'est une exigence qui est développée par un surmoi collectif. Ce « aime ton prochain comme toi-même » va contre les exigences du « ça », contre les exigences pulsionnelles du « ça ». Donc, il y aura nécessairement un conflit. Donc, Freud explique les choses comme ça. S'il y a malaise, s'il y a névrose au fond, c'est parce qu'il y a conflit entre ces instances-là. Eh bien, il faut savoir quel est quand même le présupposé fondamental de Freud. Pour arriver à cela, il faut penser qu'il y avait quelque chose un petit peu en arrière-plan. Si vous voulez, pour arriver à ce type, parce que ça aussi c'est une manipulation, ça aussi c'est quand même une certaine façon de mettre la main sur un ordre des choses et de redistribuer, altérer les données. Mais quel est sa propre attitude avant tout? Elle est exprimée dans son ouvrage qui s'intitule Introduction à la psychanalyse. Son introduction à la psychanalyse montre bien dans quelle perspective il s'installe. Et c'est très intéressant parce que son dessin est bien celui que nous avions vu hier. Lorsque nous disions les généticiens qui se livrent à ce type de manipulation fonctionnent selon un certain mode intellectuel qui est celui qui s'apparente à la révolution copernicienne d'un Kant, on retrouve effectivement ce mode de fonctionnement, on retrouve cette révolution copernicienne chez Freud aussi. Freud donc, en propre terme, expressis verbis, dit dans son introduction à la psychanalyse, il dit, voilà, moi je me situe dans une ligne, je revendique, n'est-ce pas, un double patronage. Il y a eu, dit-il, au fond, maintenant, trois humiliations fondamentales. La première humiliation, c'est celle que Copernic a infligée à l'humanité, qui croyait que la Terre était le centre du monde et qui a dû déchanter, n'est-ce pas, en se disant, ben non, ça n'est pas ainsi. Alors ça a été une première humiliation cosmogonique, comme vous voudrez. Il a fallu reviser son jugement, revoir les choses. La deuxième humiliation, donc après Copernic, c'est Darwin. Ensuite, c'est Darwin. Là, c'est une humiliation qui est infligée à l'orgueil humain. L'homme se croit, Freud, lui, ne parle pas d'orgueil, il parle de narcissisme. Il dit, Darwin a montré à l'homme qui se croyait le roi de la création, il lui a montré qu'en réalité, il n'était pas spécifiquement différent des animaux qu'il prétendait dominer, qu'il prétendait régenter. Au fond, ils descendent ces animaux, donc il y a une parenté entre eux. Et la troisième humiliation, imposée au narcissisme humain, elle vient de Freud lui-même. Alors il se situe donc dans cette ligne-là, n'est-ce pas, celle d'une révolution copernicienne. Il dit lui-même, je montre moi que l'homme qui se croit maître chez lui, maître de lui, qui pense qu'il a une intelligence qui lui permet de bien établir ses mobiles, ses motivations, qui pense qu'il a une volonté qui lui permet de dominer ses passions, eh bien je lui montre que son intelligence et sa volonté sont en réalité gouvernées, mais par en dessous, par le ça, par l'inconscient. Qu'au fond, on n'est pas maître chez soi, on n'est pas maître de soi. Au fond, on est beaucoup plus manipulé par ses pulsions qu'on ne peut soi-même les dominer, les maîtriser, les dompter. C'est ça le dessein de Freud, c'est ce qu'il veut montrer. Il y a d'ailleurs dans une étude parue dans la revue Thomiste dans les années 30, sous la plume de Jacques Maritain, il y a effectivement une affirmation intéressante. Maritain dit, Freud considère les puissances supérieures, les facultés supérieures comme l'intelligence et la volonté, comme des puissances suspectes, des facultés frappées de suspicion. Pourquoi ? Parce qu'elles prétendent nous donner la maîtrise de nous-mêmes, alors qu'en réalité, elles ne font que générer des névroses. Lorsque quelqu'un se sert justement de son intelligence et sa volonté pour dominer ses pulsions, il ne fait que les refouler. On n'échappe pas à ces pulsions pour Freud. Il y a un déterminisme fabuleux, n'est-ce pas ? On est mu, on est poussé par les pulsions, il faut que ça pulse, et puis c'est tout. On ne peut rien faire contre. C'est un déterminisme terrible, noir, aveugle. Et pour lui, c'est une illusion, c'est un leurre de croire que l'intelligence et la volonté peuvent permettre une certaine domination de la part animale de l'homme. Maritain dit que Freud a la haine de l'intelligence et de la volonté. Il les hait parce que pour lui, ces facultés qui prétendent dompter, mater l'instinctivité, en réalité ne font que générer, engendrer et entretenir des névroses. Elles promettent le bonheur et elles n'entretiennent que le malheur. Donc, il faut, et ce sera la conclusion de ce petit exposé sur Freud, il faut donc non pas entretenir, encore moins engendrer cette forme de conflit, il faut essayer de faire en sorte que ce conflit puisse disparaître le plus possible, qu'il existe le moins possible. Donc, pas d'exigence du surmoi trop forte, pas un principe de réalité trop contraignant, faire en sorte que les pulsions ne soient pas toujours là, refoulées. Faire en sorte. Alors, ça, c'est l'idéal de l'homo freudianus. Bien. Alors, on peut se dire, mais c'est peut-être ça, si au fond les médicaments ne sont pas satisfaisants, peut-être que cette analyse des profondeurs va donner une solution. Le drame est que malheureusement, cette analyse des profondeurs ne donne pas non plus la paix et l'équilibre. On a une manipulation, bon, si vous voulez, ça n'est pas l'anesthésie générale provoquée par les psychotropes que dénonce Arifian à juste titre, mais c'est autre chose, on propose autre chose. On dit on va annuler le conflit, ou en tout cas on va essayer de faire en sorte qu'il soit le moins violent possible. Alors, coup de théâtre, moi je vous dis le conflit n'est pas soluble, on ne peut pas le faire disparaître. Ce conflit, n'est-ce pas, ne peut pas disparaître. Et il ne faut pas le poser en ces termes-là. C'est vrai, mais il faut reconnaître qu'il y a au cœur de notre psychologie humaine, il y a effectivement un conflit. Il y a effectivement un combat à mener. Ça ne se place pas entre les instances psychiques, n'est-ce pas ? C'est pas entre le ça, le moi et le surmoi, mais il y a effectivement un conflit, et ce conflit n'est pas à annuler. Il peut même être, au lieu de provoquer des névroses, etc., il peut même être tout à fait bénéfique, tout à fait nécessaire. C'est une espèce de rousseauisme, d'optimisme rousseauiste qui guide Freud lorsqu'il pense qu'il peut mener ses patients une espèce d'ataraxie où il n'y aura plus du tout aucun conflit. Non, il y a effectivement un conflit. Mais je reprends l'attitude qui était la nôtre dès hier soir pour l'appliquer aux manipulations génétiques. L'attitude réaliste consistera à voir les choses telles qu'elles sont, non pas les inventer, non pas les créer de toutes pièces, ne pas créer de toutes pièces des instances comme ça, mais voir les choses telles qu'elles sont. Comment est-ce qu'elles sont réellement ? Eh bien, il y a effectivement, au fond de nous, un combat. Il y a au fond de nous un débat. Il n'y a pas besoin d'avoir fait du freudisme pour savoir ces choses-là. L'expérience humaine nous montre bien. Déjà, les anciens le disaient, je vois le bien, je l'approuve, et pourtant je suis le mal, j'arrive à faire le mal, n'est-ce pas ? Video, meliora, proboque, ça détériora ses corps, n'est-ce pas ? C'est Ovide, je crois, qui dit ça. Bien, on voit ces choses-là. Saint Paul qui nous dit, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, mon Dieu, quelle guerre cruelle, là c'est la traduction que Racine nous a proposée, je sens deux hommes en moi. Et il y a un conflit. Nous voyons bien, nous-mêmes, sans nécessairement faire référence à une œuvre littéraire genre Mr. Hyde, Dr. Jekyll, on voit bien qu'il y a effectivement une part d'animalité, et puis il y a une part de rationalité. Il y a effectivement ça. Dans la perspective aristotélico-thomiste, ça ne se passe pas sur un plan de ça, le moi et sur moi. Il y a simplement, effectivement, deux tendances fondamentales dans l'homme, la connaissance et l'appétit. Et ça se place sur deux plans, sur un plan animal, sensible, et sur un plan humain, rationnel. Et c'est vrai que nous avons une connaissance rationnelle qui se fait par l'intelligence, nous avons une connaissance animale qui opère par les cinq sens externes, estimative, agitative, le sens commun. Mais il y a aussi l'appétit rationnel, c'est la volonté, et puis l'appétit animal, ce sont les racines des 11 passions fondamentales selon Aristote, c'est-à-dire l'irascible et le concupiscible. Bien, ben, ça existe. Et il y a effectivement une différence spécifique. Ça, nous l'avons en commun avec les animaux. Les animaux ont cela comme nous. Et puis, il y a cette différence spécifique, ce qui fait que nous ne sommes pas que des animaux, nous sommes des animaux rationnels. Nous avons en plus donc cette intelligence, cette volonté, l'intelligence capable d'atteindre l'être, vraiment, la volonté faite pour le bien. Bon. Il y a effectivement un désordre, c'est-à-dire que la partie animale n'est pas toujours soumise à la partie rationnelle. Nous savons effectivement que nos passions souvent conspirent contre notre raison. Tout le théâtre classique du XVIIe siècle français repose sur l'exploitation de cette réalité psychologique, n'est-ce pas, des passions qui se révoltent contre la raison. Bon, eh bien, ça c'est l'analyse classique et qui repose sur un constat que chacun peut faire assez facilement. Ici donc je trouve les passions. Comment expliquer, alors dans une perspective qui va chercher à aller au-delà des médicaments et au-delà de Freud, nous disons effectivement qu'il y a effectivement un conflit. Il ne s'agit pas de le manipuler. Nous ne sommes pas, voyez-vous, devant un jeu de mécano ou de Lego. On n'est pas des enfants avec des cubes. On ne va pas essayer de modifier les choses. On ne va pas faire comme Chateaubriand qui essaye de décomposer, recomposer quelque chose en fonction de ses caprices. Il faut partir avec les données du problème réel, tel que c'est véritablement. Alors il y a effectivement cette composition-là. Il y a effectivement un conflit, souvent, entre la partie passion et la partie raison. Bien. Pour les auteurs qui sont influencés par la psychologie aristotélico-thomiste, au nom desquels il faut citer donc, Rudolf Allers, connu en France grâce à l'ouvrage de Louis Junier, pour ces psychiatres, Allers était viennois, mais il a fini sa carrière aux États-Unis après la guerre, pendant et après la guerre. Eh bien, Allers dit, effectivement, il y a donc ce conflit, passion-raison, mais ce conflit n'est pas pathogène, il ne va pas entraîner une pathologie, il ne va pas rendre les gens malades. Le tout est de savoir comment est-ce que je me comporte par rapport à ce conflit. Est-ce que je l'enregistre
ou est-ce que je me révolte contre lui? Ça, ça fait effectivement partie de la réalité humaine. La réalité humaine, c'est que nous sommes des animaux rationnels, et parfois nous avons tendance à faire un petit peu plus la bête, et nous n'arrivons pas à faire vraiment l'homme. Bon, est-ce que nous nous révoltons contre ces choses-là? Est-ce que nous considérons que ça ne doit pas être, que c'est injuste, que ça ne doit pas être ainsi? Bon, si nous sommes dans ce rapport de révolte par rapport à la réalité, à notre réalité intime, là, effectivement, il pourra y avoir une névrose. Là, il va y avoir, effectivement, derrière cette révolte sourde, il va y avoir, qui n'accepte pas le conflit, qui est à la base de la nature humaine, il va y avoir, effectivement, quelque chose de névrotique. Pour Allers, au fond, qu'est-ce que c'est que la névrose? C'est un rapport inadéquat à la réalité, au réel. C'est-à-dire que le névrosé est celui qui reproche aux choses d'être ce qu'elles sont. Et qui ne l'admet pas. Qui ne veut pas recevoir cet ordre, qui veut justement le manipuler, le modifier. Avec l'idée peut-être de se modifier lui-même. Dans ce rapport, n'est-ce pas, inadéquat qu'un sujet entretient par rapport à l'objet, qu'un moi entretient par rapport au réel, il y a l'idée de modifier, certainement, manipuler ce réel, mais il y a aussi l'idée de se modifier soi, parce qu'on n'est pas content de soi, on ne se contente pas de ce que l'on est, on ne se contente pas de sa nature humaine. On veut, mais là, dans l'exemple typique de Chateaubriand, on modifie ce réel, c'est un réel complètement fantasmagorique, avec l'idée aussi que soi-même, on va être changé par la manipulation, mutation, n'est-ce pas, sur un plan psychologique, sur un plan ontologique.
Rassurez-vous, c'est presque fini. Je veux simplement vous donner ma conclusion.
Comment Allers, puisque j'ai cité ce nom, comment est-ce que lui voit la gestion du problème?
À la différence de Freud, qui considère donc que l'intelligence et la volonté ne doivent pas être utilisées, parce qu'elles sont là comme des puissances illusoires, comme des facultés dangereuses, génératrices de névrose, Allers lui fait confiance à l'intelligence et à la volonté. Il pense, et là je vais vous lire juste deux petits extraits qui seront ma conclusion, ma pré-conclusion, il montre bien quel est le comportement névrotique et comment est-ce que l'on peut se guérir de cela. Alors, pour vous montrer, et là je bouclerai la boucle, vous verrez, n'est-ce pas, le rapport avec Chateaubriand que j'ai cité au début, il va nous dire que le comportement névrotique se caractérise donc par cette inadéquation. Cette inadéquation réelle se manifeste au niveau de l'intelligence et au niveau de la volonté. C'est-à-dire que l'intelligence qui est faite pour atteindre le vrai, n'est-ce pas, va être dans un rapport faussé. Elle va être en porte-à-faux par rapport à l'être des choses. Et elle va développer un comportement qu'on va qualifier d'artificiel. On va voir, n'est-ce pas, ça ne va pas être un comportement simple. Il va y avoir une espèce de dédoublement. Et souvent, n'est-ce pas, le névrosé cultive une certaine artificialité. Pour Allers, elle est de trois types, je dirais très très rapidement. Et puis au niveau de la volonté, la volonté qui est faite, n'est-ce pas, pour nous ouvrir sur l'être des choses, pour aimer, n'est-ce pas, les choses. Il ne s'agit pas là de s'aimer soi-même, il s'agit d'aimer la réalité. Il ne s'agit pas de se connaître soi-même, il s'agit de connaître la réalité. Donc, n'est-ce pas, l'intelligence et la volonté sont des facultés qui sont ouvertes sur le réel, c'est-à-dire hors de soi. Eh bien, dans le comportement névrotique, l'intelligence a tendance donc à manifester ce rapport inadéquat au réel par une certaine artificialité, un certain dédoublement. Et la volonté, elle, alors se manifeste par un autre comportement qui est assez intéressant, c'est l'égocentre. Donc, dans la névrose, au niveau de l'intelligence qui, de soi, est faite pour le réel, il va y avoir plutôt, dans un rapport inadéquat, une forme de dédoublement, ce que Allers appelle l'artificialité. Je vais vous lire le petit passage. Et au niveau de la volonté, qui est faite en principe aussi pour le réel, ici c'est le réel pour Allers, on restaure l'intelligence dans un rapport adéquat au réel. Vous voyez bien qu'ici, ces mots simplicité et confiance qui appartiennent au vocabulaire que nous connaissons, qui est le vocabulaire de la morale, de la spiritualité, ici, sont à envisager sous un plan pas simplement moral, mais vraiment métaphysique. N'est-ce pas? C'est bien, c'est pas un discours moralisateur qui est proposé ici. C'est le fondement métaphysique de tout discours moral. La morale, si elle n'est pas moralisatrice, si elle ne repose pas sur un volontarisme, la morale, n'est-ce pas, repose sur des réalités d'ordre métaphysique. Et bien ici, quand on parle de simplicité ou de confiance, c'est vraiment
dans sa racine métaphysique. Bien, lisons ce petit passage et vous verrez. Alors, il y a trois types, n'est-ce pas, d'artificialité selon Alers. Et il montre qu'ils sont plus ou moins tous présents. La première chose, c'est l'artificialité de l'expérience, c'est-à-dire que la personne n'est pas ce qu'elle fait. Elle entretient une espèce de dédoublement. Il y a ce qu'elle fait et ce à quoi elle pense, mais elle ne pense pas à ce qu'elle fait toujours. Elle ne vit pas le agé quod agis, fais ce que tu fais. Et c'est souvent d'ailleurs, c'est cette cause une forme de surmenage, d'épuisement intellectuel et parfois affectif. Elle se manifeste lorsque, cette artificialité-là, lorsqu'un être humain est attiré en même temps par deux ou trois objets d'intérêt. C'est en somme le cas où nous ne sommes pas entièrement à l'expérience du moment. Nous ne vivons pas l'instant présent. Nous vivons entièrement cet instant présent lorsque nous contemplons, par exemple, une œuvre d'art. Nous sommes entièrement immergés dans un tableau. Mais souvent, il y a un dédoublement. Nous ne nous donnons pas entièrement à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous n'avons pas la tête à ce que nous faisons. Alors ça, c'est... Deuxièmement, plus grave, c'est une artificialité alors qu'il se manifeste entre l'être d'une personne et son comportement. Il n'y a pas de véritable adéquation là entre ce que la personne est et ce qu'elle fait. Il ne s'agit pas de dire que l'homme est dans ce cas un poseur qui afficherait plus de qualités ou de dons qu'il n'a réellement. L'inverse peut être vrai, et l'homme plus riche qu'il ne le semble. Mais en toute hypothèse, nous éprouvons dans ce cas-là un sentiment de malaise, de disharmonie, de non-vérité en présence de tels sujets. Et troisième forme d'artificialité, plus délicate encore à cerner, c'est un refus de notre nature, de notre condition fondamentale. Et là, c'est celle qu'on voit chez Chateaubriand. On ne se satisfait pas de sa nature, on ne se contente pas de ce que l'on est. Alers estime alors que l'artificialité, surtout sous sa deuxième et troisième forme, se retrouve toujours dans la névrose. Il dit, bien sûr, qu'il y a, au plan de la volonté, bien sûr, qui n'est pas ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est l'égocentrisme. Le névrosé défend une position perdue, il est en proie à la peur et même à l'angoisse. Aussi se replie-t-il de plus en plus étroitement sur lui-même. Alers ici utilise une image qui, à mon avis, est très intéressante. Alers compare cette personne à quelqu'un qui se regarderait dans un miroir de poche, qui ne reflèterait que sa physionomie et rien du monde extérieur. D'où ce narcissisme, n'est-ce pas, ce repliement sur soi-même. Alors, qu'est-ce que va proposer Alers? Donc, pour Alers, vous avez bien compris, pas de conflit intrapsychique, simplement, effectivement, une réalité qui perturbe notre rapport au réel. Vous savez que la vérité, n'est-ce pas, c'est l'adéquation entre une intelligence et le réel. Alors, cette vérité, cette adéquation, ce rapport est faussé, il est vicié. Alors, lorsqu'on cultive cette inadéquation, on risque d'avoir au niveau de l'intelligence cette artificialité, au niveau de la volonté cet égocentrisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas de repenser selon le pulsion ou quoi que ce soit, il s'agit simplement de restaurer les intelligences et les volontés par rapport à leur objet, les remettre. Alors au fond, ce que propose Alers, c'est le titre d'un ouvrage de Gustave Thibon que vous connaissez bien, c'est le retour au réel. Ramener les gens à la réalité, supplanter l'artificialité par cette simplicité, un rapport simple, et supplanter l'égocentrisme par cette confiance. Et il donne cela dans l'ouvrage de Junier, que je ne vais pas citer pour ne pas faire trop long, mais ça se trouve à la page 116 et à la page 117. Donc cette substitution. Mais il n'hésite pas à dire d'ailleurs que cette substitution-là relève d'une métanoïa, c'est-à-dire d'une véritable conversion. En fait, il s'agit de quelqu'un qui était, au fond, inversé et un peu perverti. Il s'agit de le reconvertir, de le retourner, au sens étymologique, vers la réalité. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est bien beau, mais c'est complètement stratosphérique comme réflexion. C'est à un niveau, enfin vous êtes à quoi? Au septième degré d'abstraction. La réalité, c'est les malades, c'est les gens qui souffrent. Vous voyez, tenant un discours comme celui que vous nous tenez ce soir, j'essaie de faire une petite critique en attendant les vôtres qui seront encore beaucoup plus pertinentes, ou fous ou impertinentes, comme vous voudrez. Vous vous dites, c'est un peu trop. Si Chateaubriand est chimérique, vous, en tout cas, vous êtes théorique. Alors, ça ne vaut guère mieux. Et je vous dirais, c'est vrai. La réflexion d'Alers se situe sur un plan très théorique. Je vais maintenant citer quelques noms, sans entrer dans leurs travaux, parce que je n'en ai pas le temps, de gens qui ont essayé de montrer, justement, que la théorie d'Alers, qui est en réalité le constat d'une réalité, de la situation réelle, eh bien, cette théorie peut
se mettre en pratique. Et là, vous avez les ouvrages Baruch repris par Marché, qui lui voit les choses sous l'angle, n'est-ce pas, de l'évaluation du jugement moral. Pour lui, effectivement, le rapport à la réalité, l'adéquation avec la réalité, doit être signifié, doit être manifesté par une certaine docilité à la loi naturelle. Si elle est en révolte contre toute la loi naturelle, elle perd ses repères, et à ce moment-là, elle développera une névrose. Donc c'est le sens, si vous voulez, très rapidement, des travaux de Baruch repris par Marché. Vous avez, de façon très concrète aussi, au niveau des exercices qui permettent de faire ce que l'on fait, à gérer, et qui permettent d'être à ce que l'on est, de rééquilibrer véritablement un sujet en l'ancrant dans le réel, il y a les exercices de Vitoz, qui est ce médecin de Lausanne, extrêmement intéressant, et qui reprend tout à fait la vision aristotélico-thomiste des choses, n'est-ce pas, à savoir que tout commence par la sensibilité, n'est-ce pas, le sens, ensuite il y a l'intelligence, et enfin il y a la volonté. C'est-à-dire rien dans l'intelligence qui ne soit prêt à la passer par le sens, et rien n'est voulu s'il n'est d'abord connu. Vous avez Vitoz, je vous donne les noms, Vitoz, les ouvrages donc, du docteur Pierre Marché actuellement. Vous avez le travail d'un certain Labriole aussi, très intéressant, pour empêcher les gens d'être écartelés entre le passé et le futur, mais arriver à vivre vraiment le réel, le hic et nunc, ici et maintenant. Les Dominicains d'Avrier, d'ailleurs, sont en rapport avec le Dr Labriole. Vous avez aussi un petit très intéressant le docteur Stocker, médecin genevois, qui a fait des choses intéressantes aussi. Et puis vous avez, si je vous donne comme ça une rafale de noms, c'est pour que vous n'ayez pas l'impression que c'est une lubie que j'aurais exportée de Paris à votre attention ce soir. Non, c'est pour vous montrer, enfin, on est quelques-uns à avoir. Il y a également un jésuite du milieu du siècle, le père Émieux, qui reprenait, il faudrait d'ailleurs réactualiser un peu ses travaux, les analyses sur la psychasthénie. Pierre Janet. Bien, alors maintenant, la vraie conclusion, celle que vous attendez tous. Il faut enfin répondre donc aux deux petites préoccupations qui étaient les nôtres au début. Il y a effectivement donc un ordre. On peut manipuler un ordre pour le défaire, mais on peut aussi manipuler dans le sens du chiropracteur qui veut retrouver l'ordre. L'ordre, il est très simple. Il est effectivement défini par la fin. Nous, la fin, c'est le réel, c'est la réalité. Mais pas le réel, j'allais dire, en soi. C'est le réel en tant qu'il est, comme dit saint Paul, le reflet du Créateur. C'est-à-dire que nous sommes faits pour nous inscrire dans un ordre réel qui est voulu par un Créateur. Nous ne sommes pas les créateurs de ce réel. Si nous allons au réel, c'est pour que ce réel nous renvoie à son auteur que nous ne sommes pas. Et comme dit saint Paul, donc, nous sommes faits pour, à travers le visible, détecter l'invisible. Et il est insensé celui qui ne monte pas de l'invisible, du visible à l'invisible. Il a perdu le sens, commun, il a perdu le bon sens, et il est en train de perdre le sens qu'il doit donner à sa vie. Au fond, c'est dans cette direction-là que nous essayons de voir les choses. On pourrait proposer une lecture non plus paulinienne, mais augustinienne de la même réalité, en disant, nous sommes nous-mêmes créés par Dieu, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, nous avons été créés pour vous, en Dieu, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Mais de fait, notre cœur ne peut pas reposer directement en Dieu, il ne peut reposer qu'en passant par ses reflets. Il faut commencer par cette vision à travers un miroir, comme en énigme. Donc, c'est ainsi la fin qui nous est proposée. Et comment est-ce que l'on peut s'armer contre toutes ces manipulations? Bien, je crois que vous voyez comme moi, le manipulable par essence, enfin celui qui est la proie de choix, le gibier par excellence, c'est celui qui n'a plus aucun point d'ancrage. C'est celui, justement, qui est manipulable parce que son rapport au réel est parfaitement inadéquat. Il n'a plus, d'ailleurs, de rapport vrai.
Je connais une personne qui est psychiatre, je la connais à titre professionnel, pas en tant que client, je vous dis. On ne sait jamais, il y a des gens qui se posent des questions. Cette personne me disait, je vais, moi, mon métier, il est malheureusement très très simple. J'ai souvent donc à m'occuper de névrosés, de déprimés. Qu'est-ce que c'est? Essentiellement, ça revient toujours à la même chose, ce sont des gens qui ont perdu leur repère. Des gens qui sont effectivement paumés, déboussolés, désorientés, qui n'ont plus de repères, ont perdu leur marque, ils ne savent plus.
Et c'est ça, la personne la plus facilement manipulable sera ainsi conçue. Je termine vraiment en vous disant, je crois que cette petite causerie en deux volets a pour but de raviver, réactiver l'intérêt que nous devrions tous avoir pour la philosophie réaliste. Et je reviendrai en terminant sur cette formule. Ces deux phénomènes doivent nous permettre de bien opter. Il y a ceux qui considèrent que l'ordre naturel est à violer, à transgresser, et puis il y a ceux qui pensent que l'ordre naturel est à épouser. Alors je vous laisse le choix, moi j'ai choisi, je vous laisse deviner quel choix j'ai. Voilà, tout s'éteint, on va s'en aller.